Simon Martin, sur Radio Grand Ciel. Aujourd'hui, un histoire d'en savoir plus très spécial autour de l'écrivain et acteur Hervé Houellebecq. Le studio est plein aujourd'hui pour accueillir Hervé Houellebecq en résidence d'artiste à Chartres jusqu'au mois de juin. Avec lui, nous avons la chance de recevoir Aude de Rouffignac, sa partenaire sur scène. Car je vous l'annonce tout de suite, Hervé Houellebecq a de nombreuses casquettes. Il est à la fois auteur de livres pour les enfants, illustrateur et comédien. Cette résidence est d'ailleurs l'occasion de découvrir deux spectacles de la compagnie Un caillou dans la fontaine. Spectacle mis en scène par Aude de Rouffignac. Il s'agit de La cheminée qui croyait au Père Noël, qui sera donné le 28 avril à 19h en la salle des fêtes de Coulon, ainsi qu'Histoire d'enfants à lire aux animaux, qui sera donné le 10 juin à 18h à la bibliothèque de Nogent-le-Roi. Pour les accompagner, Evelyne Piété de la bibliothèque départementale, qui est à l'origine de ce projet, Xavier Couteau, directeur de cette même bibliothèque, et Damien Ménil, chargé de mission à la Ligue de l'Enseignement, qui a participé au montage de ce projet. Bonjour à tous et bienvenue dans le studio de Radio Grand Ciel.
Bonjour.
Bonjour.
Je le disais que le studio était bien plein et le sera encore plus une fois que nous aurons tourné les pages du livre d'Hervé Houellebecq, Histoire d'enfants à lire aux animaux, paru en 2011 à l'École des loisirs. Nous serons bien plus nombreux, disais-je, qu'il faut raconter avec les phasmes, les escargots, les poissons lumineux, un chien migrateur, un lapin-chat qui peuple ce livre et tant d'autres qui attendent, j'en suis sûr, de sortir de la tête d'Hervé Houellebecq. Hervé Houellebecq, les animaux occupent une place particulière dans votre vie et dans vos livres. D'où vient cette passion ?
Bah, j'ai grandi à Lèves. Et à l'époque, Lèves, c'était la campagne. Bon, c'est encore un peu la campagne, quand même, au bout de Lèves, là, vers le Béville.
À Paris, oui.
Ouais, maintenant j'habite à Paris. Et donc, dans les années 70-80, c'était quand même encore vachement la campagne. Puis mes parents ont acheté une ancienne ferme qu'ils ont retapée. Et puis, j'ai deux frères et on avait la chance d'avoir tous les animaux qu'on voulait, en fait. Hein. Franchement. On ne nous a jamais refusé, enfin en tout cas moi, mes parents m'ont jamais refusé aucun animal. En fait, je me baladais, tu vois, et puis les animaux, je les trouvais, je les ramenais, et ils avaient leur place à la maison.
Quel genre, des hérissons, des oiseaux, des poissons rouges, tout ça.
Plein d'oiseaux.
Des renards.
Ah non, j'ai pas eu de renard. C'est la grande histoire que je raconte souvent aux gamins. J'ai eu un oiseau en liberté dans ma chambre pendant pas mal d'années.
Un verdier, c'est ça ?
Ouais, un verdier, ouais. Et puis, j'ai plein d'animaux, des corbeaux, toutes sortes de poissons, des tortues.
Est-ce que ça veut dire que l'enfant Hervé Houellebecq était un petit peu solitaire et puis s'entendait mieux avec ses compagnons animaux ou pas ? Ou pas du tout ?
Bah, écoute, non.
Pas spécialement.
Non, en fait, j'adorais les animaux, comme beaucoup d'enfants, tu vois, comme beaucoup d'enfants. Et puis, comme j'avais la chance de ne pas avoir des parents trop embêtants avec ça, qui, je pense, aiment beaucoup les animaux aussi, tu vois, c'était naturel, en fait, tous ces bestiaux à la maison, quoi, tu vois. Et pas... Enfin, voilà, moi, je les aimais, je les ramenais, et puis on les gardait, quoi. Puis mes parents ramenaient aussi, on avait trois chiens, plusieurs chats, tout cohabitait, une grande volière dans la cuisine, plusieurs corbeaux, hérissons, l'élevage de hamsters, de souris, de phasmes, gerboises.
Le fameux phasme qu'on retrouve dans ton livre. Ouais. Alors, aujourd'hui, vous habitez à Paris, ça fait une grosse différence là du coup, il n'y a plus de possibilité d'avoir des animaux, j'imagine, c'est compliqué.
Non, j'en rêve. Oui. La nuit, ouais. Du coup une ou deux fois par mois je fais des rêves d'animaux, alors ça compense. Mais à Paris non, c'est ouais, à Paris si t'as des animaux il faut être présent. Moi je suis souvent absent pour les bouquins, je suis sur des salons ou alors en tournée, alors si pour avoir des animaux puis pas s'en occuper. Puis j'aime pas trop les mettre en cage, quoi. Toi, moi mon oiseau il a jamais eu de cage, j'avais une tortue sur mon bureau, elle avait pas d'aquarium. Si pour les enfermer.
Et à Paris, est-ce qu'il y a pas une faune également qui serait peut-être un petit peu plus secrète? Non?
Bah, je sais pas. J'avais un pigeon pendant pas mal d'années. C'est vrai. Non, ça, c'est pas vraiment une faune.
C'est tout à fait original à Paris.
C'est pas trop secret, mais non, mais il était mignon ce pigeon. Je l'avais trouvé. C'est une belle histoire. Je l'avais trouvé blessé, un petit pigeon. Tu vois, je l'avais emmené chez le véto. Et puis il m'avait dit, oh, on pourra pas réparer son aile. Vous savez qu'elle gardait, ça fera comme une poule. Alors je l'ai gardé. Puis j'avais un cochon d'Inde à l'époque. Et dans l'immeuble où j'habite, il y a un jardin. Et du coup, le cochon d'Inde passait le printemps et l'été dans le jardin. Et le pigeon est parti avec le cochon d'Inde. Ils sont devenus amoureux. Et ils ont fait un nid ensemble. Le pigeon s'est vraiment pris pour un cochon d'Inde. Et le cochon d'Inde se prenait pour un pigeon. Et puis, non, mais c'est une histoire dingue, hein. Ils vivaient ensemble, ils dormaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils se quittaient pas. C'était vraiment une vraie histoire d'amour. Et un jour, mon pigeon, il est devenu très, 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 très beau. Et là, il y a un pigeon de Paris, un vieux pigeon tout moche qui est passé et qui a découvert. En fait, c'est mon pigeon, c'était une femelle. Et il a vu, il a dit, waouh, quel beau pigeon. Et en fait, d'un seul coup, il est allé le voir et ils se sont mis ensemble. Et là, mon pigeon a réalisé qu'en fait, il était un pigeon et pas un cochon d'Inde. Ouais. Et il a quitté le cochon d'Inde et il a fait son nid à peu près 1,50 m du nid qu'il avait avec le cochon d'Inde. Là, il s'est installé, il a pondu 2 œufs. Et à partir de ce moment-là, il a commencé. Le cochon d'Inde est très, très triste. Le pigeon le chassait sans cesse, des coups de bec. Maltraitance là je sais pas ce qui s'est passé, il y a un œuf qui a disparu et il a eu un bébé ce pigeon, tu vois, et puis à un moment donné tous les pigeons ont disparu, je sais pas trop ce qui s'est passé, un truc très étrange, et mon cochon d'Inde est mort de désespoir. Ouais, ah oui, devant le nid du pigeon, il s'est laissé mourir en fait. Ouais.
Ça ressemble tout à fait à une histoire d'Harry Houellebecq, ça.
Ben, c'était une histoire d'Harry Houellebecq. C'est pour ça que ça ressemble à une histoire d'Harry Houellebecq. Ouais.
Parce que les courts textes qui composent Histoire d'enfants à lire aux animaux ont une telle qualité de présence, on sent vraiment ton univers, que j'ai le sentiment que tous les personnages qu'on y croise, ils ont quand même, peut-être beaucoup, en tout cas quelques points communs avec leur créateur. Est-ce que je me trompe?
Oui, forcément.
Les personnages qu'on croise dans Histoire d'enfants et Lire aux animaux, ils ont quand même un point commun, selon moi. Ce point commun, c'est qu'ils sont un petit peu inadaptés par rapport au monde moderne. Ils sont toujours un petit peu en décalage. Ils sont soit dans la lune ou alors ils ont un tout petit handicap. Et ça, est-ce que justement, ce sont des caractéristiques d'Harry Houellebecq dans la vraie vie ou pas du tout? Ou alors tout est inventé et puis tu es quelqu'un de tout à fait rationnel dans la vie et puis.
Bah, c'est délicat de répondre à cette question, tu vois, Simon. Enfin, c'est pas à moi de dire qui je suis. Ce mec, il t'aide vachement. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, c'est autobiographique, de toute façon. Enfin, forcément, tu vois, je pars de ce que je connais. Les images, c'est des images que j'ai dans ma tête. Donc, c'est des choses que j'ai vécues. Tu vois, tout prend source dans mon expérience, tu vois, c'est sûr et certain. Après, parfois, tu vois, parce que moi, parfois, je vois que les gens lisent mes histoires, ils voient des choses que moi, je vois pas, tu vois, ils se projettent aussi, chacun s'y projette.
D'accord. Donc toi, tu ne te sens pas spécialement en décalage avec le monde moderne?
Écoute...
Parce que tu as un parcours quand même assez atypique. Enfin, tout le monde n'est pas acteur, quoi. C'est aussi acteur ou auteur jeunesse. C'est aussi une manière de s'inscrire dans la société, de choisir ces métiers-là, non?
Alors,
de rejeter certaines conventions, peut-être, ou non?
Comédien, tu sais, j'ai toujours voulu être comédien, ça c'est sûr et certain. Ouais, ça c'est. Mais auteur jeunesse, j'ai pas choisi. En fait, un jour, j'ai envoyé mon travail à une maison d'édition, à l'école des loisirs. Et il se trouve que ça a marché. J'ai eu cette chance-là d'envoyer mon travail. J'ai envoyé à une dame qui s'appelle Geneviève Rizac. Et ça a marché, ça a plu. Tu vois, j'ai eu cette chance-là. Mais c'était pas mon projet de vie, tu vois. Après, comment te dire, par rapport au regard sur le monde, décalé, etc. Tu sais, Je me dis qu'on est tous un peu comme ça, de toute façon, d'une certaine façon. Je pense que chacun. J'ai l'impression que les gens se retrouvent beaucoup dans ce petit personnage qui est présent un peu dans tous mes livres, un peu rêveur, un peu décalé, un peu paumé, un peu handicapé, un peu gentil, un peu en marge, un peu rêveur, un peu proche des détails, des petites choses, tu vois? Parce que. Je pense qu'en fait, moi, je suis pas plus comme ça que les autres gens. Simplement, moi, j'ai comment dire, j'ai eu la chance, le loisir de d'en faire enfin, pas une qualité, comment dire, de travailler, d'en faire un travail en tout cas. Et en fait, je pense que chacun a en lui, évidemment, tu vois, ce personnage un peu rêveur, un peu cassé, un peu à côté, un peu à la masse. Tu vois, on est tous un peu à un moment donné le débile du collège ou on l'est tous dans,
Alors,
tu vois?
est-ce que ce qui t'inspire le plus, ce sont justement de côtoyer les enfants, c'est en regardant les enfants que tu peux trouver ton inspiration,
Non.
ou alors c'est dans le monde des adultes et dans le monde de tous les jours?
Non, en fait, alors ça peut paraître étrange, mais ça, c'est ce que je raconte beaucoup aux enfants. Moi, mon inspiration, c'est très bizarre, mais pour mes dessins comme pour mes histoires, elle part des bon, pour mes histoires elle part des mots, mon inspiration en fait, tu vois. Mais par exemple, toi qui écris de la poésie, tu le sais, moi je réfléchis pas, en fait je m'amuse avec les mots, tu vois. Je les laisse résonner, je trouve des petites phrases qui sont drôles, qui naissent comme ça, comme des petites bulles qui explosent dans la vase, quoi. Et puis je les regarde, en fait je les suis, je me laisse complètement aller, j'essaie de perdre au maximum contrôle, que ce soit pour le dessin ou pour le texte. Et là, en fait, il y a des petits poèmes qui naissent. Et je les suis, en fait je les accompagne, je les découvre. Je sais jamais ce que je vais écrire quand j'écris une histoire, j'ai aucune idée. Je sais un peu le thème quand même, mais après je sais pas ce que je vais écrire. Ce qui motive mon travail, c'est le plaisir de partir à la découverte. C'est pas, je cherche pas à dire quelque chose, et je fais juste confiance aux mots, et les mots qui viennent en moi. Ben forcément, ils sont chargés de quelque chose, parce qu'ils sont, ils sont chargés de mon langage, de mes émotions, de mon histoire, de mes joies, de mes blessures, de mes rêves. J'ai juste à leur faire confiance, et tu vois, je les laisse aller. C'est comme quand on prend, c'est comme quand on est très bien, par exemple, c'est l'été, on est allongé dans un transat, on prend un livre de poèmes, on se dit pas, tiens, je vais écrire un merveilleux poème. Tu prends un livre de poèmes, tu commences à lire, tu commences à lire, et puis à un moment donné, le poème, il continue dans ta tête. Et le poème qui se fait dans ta tête, dedans, il va y avoir des choses très fortes, très belles, très intimes, et qui vont vraiment te correspondre. Une vraie musique qui va être la tienne, en fait. Et elle t'échappe complètement. Et là, à ce moment-là, c'est intéressant. Et c'est pour ça que, par exemple, j'aime beaucoup travailler avec les enfants, parce que ils ont accès plus facilement à cette musique intérieure. Mais moi, j'ai pas une musique intérieure plus intéressante ou plus puissante ou plus forte que les autres. Quand on travaille avec même avec les adultes, on s'aperçoit qu'on a tous une musique qui est très belle, parce qu'on a tous un vécu, on a tous des images, on a tous des émotions, on a tous un imaginaire, on est tous remplis de quelque chose de fort, on a tous un inconscient. Et simplement, par contre, ce qu'il faut, c'est retrouver le chemin pour y accéder. Et à partir de ce moment-là, quand on y accède, il suffit juste d'écouter la musique intérieure.
Mais, alors en tout cas, parlons des personnages, alors d'histoires d'enfants liées aux animaux, ils ont tous leur petit handicap, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on a sûrement tous nos handicaps. Il y a le petit garçon tout maigre que les gens utilisent comme un bâton, un autre qui est pris pour un animal, un vieux monsieur avec une barbe extrêmement longue. Mais toutes les histoires se terminent par une qualité qu'on retrouve dans ce handicap. Et finalement, le petit enfant tout maigre, il va être très heureux de vivre avec les phasmes dans un aquarium. Le monsieur avec la barbe extrêmement longue, ça lui est très utile pour pêcher plein de poissons. Est-ce que ça veut dire que tu as un regard plutôt optimiste sur le monde, plutôt positif? C'est-à-dire que, avec tous nos petits handicaps, on peut faire des choses, en tout cas, qui sont positives.
Alors écoute Simon, je trouve que je trouve que, enfin, excuse-moi de te contredire, mais bah, je trouve que c'est pas forcément, tu vois, non, je trouve qu'il n'y a pas forcément un système comme ça. Parfois, je trouve qu'il y a des histoires qui finissent un peu bizarrement, même un peu cruelles, un peu étranges. Par exemple, dans ce bouquin-là, il y a l'histoire des poissons lampadaires, ouais. Tu vois, ils finissent tous morts, en fait, quoi. Ils ont tous gelé, ils crèvent, et voilà, c'est tout, quoi.
Tu t'autorises tout, même si c'est pour les enfants?
Ah oui,
il y a pas de barrière sur ça doit se terminer de manière positive.
Ah bah non. Et même tu vois, tu parles de l'enfant phasme, c'est rigolo parce qu'un jour on a fait une rencontre, c'est un petit enfant qui ressemble à un phasme, et un jour ils vont visiter le muséum d'histoire naturelle et là il s'aperçoit qu'en fait il ressemble tellement à un phasme que les phasmes l'appellent, il rentre dans l'aquarium et il reste pour toujours vivre avec les phasmes. Et un jour on a fait un petit débat avec des enfants en leur demandant est-ce que c'est une fin positive ou négative, tu vois. Il y a des enfants qui disaient oui, c'est bien parce qu'il trouve un endroit où il est bien, il est avec des gens comme lui. Des enfants qui disaient non, c'est pas bien parce qu'il n'a pas réussi à s'adapter au monde et que finalement il est resté dans une certaine forme de solitude. Tu vois, finalement. Oui, oui. Mais c'était quoi ta question? Est-ce que j'ai une image positive de lui?
Oui, c'est-à-dire, même grâce à leur handicap, grâce à leur différence, ils vont trouver leur voie, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est quelque chose qui te ressemble? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu ressentir, que tu as pu vivre toi-même? Est-ce que le fait d'écrire, est-ce que le fait de faire du théâtre, justement,
oui,
ça a été une manière de
sublimer
tes handicaps?
Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais.
Notre voisine avait mis ses culottes à sécher dans son jardin, et les hirondelles avaient fait leur nid dedans. Comme elle était très gentille, elle n'avait pas osé les dénicher, et avait pris l'habitude de porter ses robes sans culottes. Un jour de grande pluie, elle était rentrée chez elle toute trempée. Elle avait fait un feu et avait déposé ses souliers au coin de la cheminée. Pendant la nuit, deux petits hérissons s'y étaient réfugiés. Au matin, elle n'avait pas osé les déranger et avait désormais décidé de marcher pieds nus. Un autre jour, après s'être baignée dans le lac, elle constata qu'une vache s'était endormie sur sa robe. Elle ne voulut pas la réveiller et préféra rentrer chez elle toute nue. Elle passa l'été ainsi, toute nue dans sa maison. Quand vint l'hiver, elle fit deux ou trois tentatives pour se vêtir à nouveau, mais à chaque fois des créatures l'avaient précédée dans ses habits. « C'est comme ça quand on habite à la campagne », s'était-elle dit. Elle décida donc, pour ne plus embêter les animaux, de ne plus s'habiller. Depuis ce jour, elle n'achète plus aucun vêtement, et quand elle a froid, les animaux, qui sont toujours très reconnaissants, la réchauffent tendrement.
Thank you. Radio Grand Ciel.
Si Hervé Houellebecq est parmi nous aujourd'hui, c'est grâce entre autres à Evelyne Piété et Xavier Couteau de la Bibliothèque départementale. Alors je me tourne maintenant vers Evelyne et Xavier. Evelyne, tu es à la base de ce projet.
Oh là là.
Alors comment est-il né ?
Oh, la base, c'est un grand mot. Non, non, j'ai rencontré Hervé l'année dernière dans le cadre d'un projet qu'on porte à la B2L, donc en lien avec le monde scolaire, qui s'appelle Écolire. Donc il était invité pour un de ses romans qui s'appelle L'histoire de la maison qui voulait déménager. Et donc c'est, comment dire, très rapidement, on a construit avec Hervé son intervention à Nogent-le-Roi. Donc il venait dans une des bibliothèques et j'aimais tout de suite, d'abord j'ai découvert l'univers d'Hervé que je ne connaissais pas. Et puis donc ses nouvelles très courtes et je les ai mises en voie puisque donc je les ai partagées tout de suite avec les enfants et la bibliothécaire de Nogent. Et ensuite on a construit avec Hervé voilà sa venue et très vite Hervé a proposé bien plus que de venir rencontrer les deux classes. Il leur a proposé déjà il a envoyé tous plein de dessins pour qu'on ait une petite expo dans la bibliothèque et puis des débuts d'histoire du livre qui allait paraître au mois d'octobre, qui s'appelle L'histoire du pays qui n'arrêtait pas de grandir. Et donc, il y a plusieurs enfants, donc c'était notamment plutôt des 6e et quelques CM2 qui ont écrit la suite de ces histoires. Et lors de la venue d'Hervé, donc c'était, tout ça s'est déroulé sur à peu près 2-3 mois. Et quand Hervé est venu en mai, c'était pas seulement justement qu'Hervé réponde à des questions posées par les enfants, mais c'était aussi que dans l'échange, les jeunes puissent venir lire leurs textes à partir des débuts d'histoire d'Hervé. Et donc, c'était cette double rencontre. Et donc, Hervé a commencé déjà. On n'était pas en résidence, mais déjà, il leur indiquait, il leur donnait... voilà, tu aurais peut-être pu, là, t'arrêter, mais c'est très bien. Enfin, il les a tout le temps encouragés. J'ai beaucoup aimé aussi la posture, enfin, la place d'Hervé face à ces jeunes. Il les a encouragés sans cesse. Hein. Et pour beaucoup, ils sont revenus à nos gens, puisqu'ils sont beaucoup, ils se sont inscrits dans le club... Le club Solidélire qui se trouve... Oui, Solidélire qui est à Nogent-le-Roi, que je ne confonde pas avec un autre club, qui est à Galardon, qui est aussi un club du collège qui est aussi accueille Aude et Hervé. Et donc, il y a beaucoup de jeunes, en tout cas, qui ont cheminé, qui ont même, le mois dernier, qui ont dit à Hervé, mais dis donc, j'ai lu ton livre maintenant qui vient de sortir et l'histoire, elle ne s'est pas terminée. Tu as changé ton... Ou cette histoire, elle n'est pas dans ton livre. C'est ouais. Plutôt ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'était une belle rencontre et j'ai envie qu'elle se poursuive. Et donc, le dispositif résidence d'auteur nous permet, en tout cas, de l'imaginer. Donc, on a construit ce dispositif avec Xavier, avec aussi Damien Ménif de la FOL, aussi avec Nathalie Arnoux. Et puis après, on a eu aussi, dans les rencontres, ça nous a permis aussi de se dire, enfin d'entendre que Hervé souhaitait avant tout venir avec sa compagnie, et la compagnie, Un caillou dans la fontaine, c'est Aude. Voilà, donc la résidence d'auteur est devenue une résidence d'artiste. Hein. Et donc, moi, j'ignorais totalement qu'Hervé, bon, bien sûr, dessinait, mais... Il dit qu'il n'est pas dessinateur, mais aussi qu'il était comédien. Donc on a vraiment, c'est une très belle résidence cette année, une double résidence, à la fois les publics, puisque ce ne sont pas seulement des publics jeunes, il y a aussi des résidents de maisons de retraite. Ils vont avoir l'occasion de rencontrer, enfin de venir assister à des spectacles dans leur commune, après avoir rencontré sur 3 semaines Aude et Hervé sur un travail d'écriture, de souvenirs, enfin de restitution pour certains, de souvenirs d'enfance.
Oui, un vrai suivi, ça c'est important.
Voilà, voilà où on est à la moitié du projet. Et bon, voilà, j'ai hâte que ça se poursuive.
Et Xavier Couteau, vous êtes directeur de la bibliothèque départementale. Alors, quel est l'intérêt pour la bibliothèque départementale de monter ces résidences d'artistes ? Et il y en a régulièrement ou c'est une première ?
Alors, c'est la cinquième année qu'on porte donc avec la Ligue de l'enseignement ce dispositif de résidence. Et comme vous le disiez à l'instant, l'intérêt de la résidence, c'est le suivi, c'est ce travail sur un temps long. Les bibliothèques et les écoles travaillent régulièrement avec des auteurs, mais souvent sur des temps courts, c'est-à-dire une après-midi ou deux dans le meilleur des cas. Et le grand luxe qu'apporte la résidence, c'est cette durée. Et on a observé, nous, sur les années précédentes, que cette durée permet de voir opérer entre les auteurs et tous les partenaires, et notamment les élèves, des choses qui ne peuvent pas se faire en une heure ou deux. Et ce qu'on observe en particulier, et notamment dans les classes, que ce soit en primaire ou en collège, c'est l'évolution dans un groupe d'élèves d'un rapport des élèves au texte, à la littérature, à la mise en voix, à la théâtralité, et aussi d'un rapport entre eux au sein du groupe de classe. C'est-à-dire que souvent, des élèves qui sont, du point de vue strictement scolaire, un peu à la marge ou en difficulté sur des savoirs de base, sur des éléments fondamentaux qui sont indispensables dans un cursus, trouvent l'occasion dans le rapport au texte, à une sensibilité nouvelle, à une nouvelle façon de les interpeller, trouvent l'occasion de se révéler à eux-mêmes et ou au groupe. Il y a toutes ces choses-là qui changent sur 2, 3, 4 semaines, parfois autant de mois.
Alors, la bibliothèque départementale, vous allez nous rappeler son rôle. Elle est référente, c'est ça, par rapport aux autres bibliothèques du département. Donc, vous avez beaucoup de partenaires.
On en a plus d'une centaine. Le principe, effectivement, merci de me permettre de le rappeler, parce qu'on est une structure relativement peu connue. Le principe des bibliothèques départementales, il y en a autant qu'il y a de départements en France, c'est de soutenir les bibliothèques dans les communes de moins de 10 000 habitants. Donc, on n'est pas, nous, directement en prise directe avec le public. On assure pour toutes ces bibliothèques-là des services, du conseil. On prête des collections physiques, des livres, des CD, des DVD, des collections numériques. On forme, on soutient financièrement et on accompagne des projets. Et c'est dans cette logique-là que la résidence s'inscrit. C'est-à-dire qu'il y a les deux niveaux d'action d'une bibliothèque. D'une part, en direction des professionnels. En portant une résidence, on permet à des bibliothécaires aussi de s'inscrire dans un projet ambitieux professionnellement qu'elle ne pourrait pas porter seule, ni financièrement, ni en termes de portage, parce que ce sont des projets lourds à construire. Et puis, on agit donc en direction des publics, ce qui est plus rare pour nous, parce qu'on est souvent à distance de notre cible, qui reste évidemment les publics.
D'accord. Alors, un tel projet, donc on l'a dit, il y a de nombreux partenaires, et je me tourne vers Damien Ménil, qui est chargé de mission pour la Ligue de l'enseignement. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est la Ligue de l'enseignement ?
Alors, très rapidement, nous, on est association et mouvement d'éducation populaire. Voilà, on est partenaire de l'école, une association qui s'est montée en parallèle, en fait, de l'école publique, et qui... tout au long des années, donc 150 ans d'histoire du coup, et pendant toutes ces années, a été en parallèle de l'école, en fait, un moyen de permettre aux individus à n'importe quel âge de leur vie de pouvoir continuer à découvrir des choses, à s'émanciper, à se cultiver.
Mais d'où l'intérêt que vous portez à un tel projet ?
Oui, parce que on est vraiment là au cœur de ce qu'on fait depuis pratiquement très très longtemps. C'est-à-dire on est à la fois dans l'école, à la fois en dehors, à la fois avec le public jeune, mais aussi avec les familles. Donc c'est un projet qui se situe vraiment dans ce que nous on fait dans le milieu associatif. C'est-à-dire qu'on essaye d'ouvrir un projet qui va germer effectivement plutôt dans les classes, pour l'étendre en fait aux bibliothèques, aux parents, et voir d'autres partenaires, là, comme il y a les maisons de retraite cette année. Donc voilà, on essaye de mailler en fait tout autour du projet, tout un tissu.
C'est-à-dire qu'en amont, vous avez préparé le terrain pour la venue d'Hervé et d'Aude, et peut-être qu'après leur départ, vous continuerez dans ce sens-là.
Oui, c'est. Enfin...
Oui, je pense qu'il faut reconnaître qu'on a maillé ensemble le terrain, et c'est surtout les bibliothèques de notre réseau, tous les partenaires, c'est-à-dire les maisons de retraite, les écoles, les collèges, sont leurs partenaires sur le territoire. Et donc, vraiment, je suis ravie de travailler sur cette résidence avec les bibliothécaires de Coulon, de Nogent-le-Roi et de Galardon. Voilà. Et donc on l'a. Le projet, elles ont lu aussi. Il faut dire que tout cet été, elles ont lu les livres d'Hervé, et elles ont très vite adhéré au projet. Et ensuite, bien sûr, avec la FOL, on a construit le projet. Mais c'est né aussi de leur envie, et ça c'est bien, parce qu'elles savent que cette résidence, en effet, comme disait Xavier, elle est sur la durée. Et sur la durée, on peut construire un projet, on peut un travail d'écriture et bien plus. Et puis ensuite, ce projet va être partagé, c'est-à-dire pas seulement, bien sûr, ils vont assister au spectacle, mais il va y avoir des temps de restitution. Et sur ces temps, les familles, comme tu disais, Damien, vont être invitées pour retrouver le travail, pour entendre les textes écrits par les enfants.
La fille chlorophylle. Je connais une petite fille verte. Elle est née comme ça. Sa maman n'a pas particulièrement mangé d'herbe quand elle était enceinte. Et pourtant, elle est venue au monde verte comme une feuille. À sa naissance, les sages-femmes avaient conseillé à ses parents de la lâcher dans une forêt. Mais ils trouvaient sa couleur jolie, alors ils l'avaient gardée. À l'école, elle avait rencontré de grandes difficultés. Elle n'avait pas le droit de partir en classe de nature, car deux fois on l'avait perdue dans une prairie. Elle n'avait pas beaucoup d'amis. Par contre, elle s'entendait très bien avec les animaux. Elle ne faisait pas peur aux oiseaux, elle pouvait nager dans les mares sans effrayer les grenouilles, et quand elle se reposait dans les sous-bois, les insectes restaient tranquillement assis tout autour d'elle. C'est pourquoi, après quelques années d'errance, elle avait décidé de ne plus jamais quitter la forêt. Maintenant, quand ils la croisent, les gens pensent que c'est une fée, un elfe ou un ange des bois. Mais moi, qui la connais bien, je sais que c'est une petite fille. Une petite fille chlorophylle, tout simplement.
Je me tourne vers Aude de Rouffignac, on n'a pas encore entendu la voix. Vous êtes actrice et metteuse en scène et vous êtes également passionnée de littérature. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à travailler avec un certain Hervé Houellebecq ?
Oh, oh. En fait, avant d'être metteuse en scène, j'étais juste comédienne. Et nous avons travaillé depuis l'année 2001 ensemble pour un autre metteur en scène. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Et nous avons fait avec ce metteur en scène deux spectacles qui ont beaucoup tourné. Donc nous avons été beaucoup ensemble sur scène, beaucoup ensemble en loge, à répéter, à se raconter des choses. Et un jour, le désir est venu et j'ai dit à Hervé, et si on faisait un spectacle avec tes histoires, tous les deux ?
Alors justement, quel regard portez-vous sur ces textes d'Hervé Houellebecq ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ces textes ?
Je crois que c'est ce petit bonhomme un peu cassé, un peu chauve, un peu sur la touche, un peu rêveur, un peu dans l'aquarium. Vous posiez la question, est-ce qu'il y a quelque chose de lui ? Moi, je crois qu'il y a quelque chose clairement en moi de ce bonhomme-là.
De ce personnage aussi, oui. Alors, vous participez bien sûr aux ateliers avec les enfants et dans les classes. C'est un univers que vous connaissez bien et qui vous convient, ça ?
Parfaitement. Oui, j'ai commencé ma carrière de comédienne en 95 et exactement au même moment, j'ai été embauchée à la scène nationale du Granit pour être responsable pédagogique. Donc j'ai toujours mené ces deux carrières en même temps et je ne crois pas qu'elles soient dissociables parce que je ne me retrouve pas en étant que comédienne et je ne me retrouve pas en étant que pédagogue.
Alors, qu'est-ce que ça vous apporte justement ce travail avec les enfants ? Par rapport à un travail sur scène simplement ou avec des adultes ?
Ça apporte, alors je sais pas, peut-être que c'est un peu égoïste, mais ça apporte d'apporter aux autres. Donc forcément, je m'y retrouve forcément. Mais ça m'apporte aussi parce que moi, j'aime faire découvrir des écritures, donc je suis obligée d'aller en chercher. Je lis beaucoup de choses. Je cherche énormément de textes. Je passe mon temps à lire du théâtre jeune public, à chercher des écritures, à vouloir faire comprendre ce que c'est qu'une écriture, ce qu'une langue, à des enfants, et j'aime les sensibiliser aux mots, à la délicatesse des mots, au goût des mots. J'avais un professeur qui parlait de mots bonbons, alors on fait toutes ces sortes d'exercices avec les enfants en classe, là, sur ce projet Eurélien.
Alors, les spectacles que vous avez montés avec Hervé Houellebecq est construit à partir d'ombres chinoises, c'est ça ?
Le second. L'histoire, enfin, la cheminée qui croyait au Père Noël, ce sont des ombres.
C'est ça.
Parce que le premier, justement, il n'y avait pas de dessin. Il n'y avait que les textes d'Hervé dans Histoire d'enfants à lire aux animaux, qui plus est, des textes édités. Et j'ai vraiment eu envie que le graphisme d'Hervé, qui accompagne tellement ces textes, soit présent.
C'était le but de ma question, parce que votre parcours, vous êtes passé par l'école du Louvre pour des études d'art, d'histoire de l'art, puis en Australie, vous étiez chargé d'estimer les œuvres d'art contemporaines australiennes. En quoi cela a-t-il forgé votre regard de metteuse en scène à ce niveau graphique ça compte ou pas?
Oui, bah oui, forcément. La formation, le contact des belles choses, la sensibilisation aux lumières, je sais pas, les sombres, les Espagnols, les Caravages, les Italiens. Quand j'ai été assistante à la mise en scène sur des projets, j'avais toujours en tête des latours et autres pour des éclairages. J'aime les choses tamisées. Ou au contraire, les grandes taches de lumière, un chirico, une façade en plein soleil à midi. Oui, ça me marque indéniablement, c'est clair. J'ai été traînée dans les musées toute mon enfance. Et au départ, c'était long parce que les musées sont grands.
Les jambes des enfants petits.
Les jambes des enfants petits, mais voilà. Non, oui, ça compte. Je ne saurais pas dire à quel point.
D'accord. Alors, le premier spectacle aura lieu le 28 avril à 19h à la salle des fêtes de Coulon. Il s'intitule « La cheminée qui croyait au Père Noël ». Je me retourne vers Hervé Houellebecq et puis vers Aude également. Comment peut-on présenter ce spectacle ? Donnez-nous envie.
Allez, Aude, vas-y.
Alors, c'est une commande d'écriture à Hervé. C'est une commande d'écriture qui est venue de... plusieurs choses. D'abord... La plupart des textes de ce spectacle, justement, lui ont été commandés, mais l'histoire qui donne le titre est une histoire éditée. Et cette histoire de cheminée qui attend Noël m'a toujours fait rire. Je la trouve très drôle et j'ai eu envie de construire un spectacle à partir de ça, de ces deux personnages qui arrivent et les membres de cette famille qui veulent décoincer un peu la cheminée qui attend désespérément le Père Noël. Et ensuite, ça, c'est venu, mais ça c'est peut-être un peu moins joli comme prétexte, mais... j'avais envie de faire un spectacle délicat de Noël pour les enfants. Voilà. J'avais envie d'une chose douce, pas trop grandiloquente, d'une chose qui n'en mette pas plein la vue, mais qui nous ressemble à tous les deux. Voilà.
C'est-à-dire qui vous ressemble à tous les deux ?
Vas-y, toi.
Vas-y, oh non, mais c'est quand même...
Je ne sais pas, je pense qu'on est tous les deux, et à la fois... Je crois qu'on aime rire, je crois qu'on aime s'amuser, mais on est aussi des doux, des gens qui aiment des choses esthétiques, raffinées, qui aiment le vide aussi, qui aiment les belles matières. Je ne saurais pas dire plus.
Alors, c'est un spectacle d'ombre chinoise. Oui. Ça, c'est original également. Comment ça fonctionne ? Comment c'est mis en place ?
Alors, Hervé a fait le personnage, il a dessiné. Alors, si vous avez, j'ai envie que les auditeurs regardent les livres d'Hervé. Hervé a un graphisme, il dessine avec des feutres très fins. Et il n'utilise que le noir. Il n'y a pas de couleur dans les dessins d'Hervé. Et alors, on a fait des tentatives avec la ligne simple. Et ça ne fonctionnait pas. On ne pouvait pas voir les personnages de loin. Donc, j'ai eu envie d'essayer en silhouette pleine. Et là, ça a été la surprise parce que ça marchait très bien. Je retrouvais la magie des traits d'Hervé. C'est un peu différent, forcément. Et du coup, ben voilà, on a découpé. On a eu une artiste. Je tiens à la saluer. Non,
non,
pas du tout. Une amie, une voisine très bricoleuse qui a découpé dans du polycarbone les silhouettes qu'il a fallu ensuite peindre ou combler avec une matière noire. pour que les marionnettes soient, les silhouettes, il faudrait dire, soient bien rigides et opaques et qu'on puisse les emporter partout avec nous. Et comme à la fin du spectacle, elles sont souvent manipulées par les enfants parce qu'on est pédagogue jusqu'au bout. Donc les enfants montent sur le plateau.
Il faut toucher pour comprendre.
Et il faut toucher pour comprendre et avoir envie de faire. Donc elles résistent au choc. Mais on fait attention quand même.
Nous verrons ça le 28 avril à 19h, je le répète, à la salle des fêtes de Coulon. Le deuxième spectacle, c'est le 10 juin. Nous aurons l'occasion d'en reparler sur Radio Grand Ciel à 18h. À la bibliothèque de Jean Leroy, c'est le spectacle autour du livre Histoire d'enfants à lire aux animaux. Ça, c'est un spectacle qui tourne depuis pas mal d'années, alors.
Trois ans.
Il a été créé l'été 2013.
C'était une évidence pour toi, Hervé, de mettre sur scène des textes du livre.
Ah, ça, c'est ton choix, Audin, en fait. Hein, mmh. Vraiment.
C'est Audin.
Dans notre duo. On est un très bon duo de travail, Aude et moi. On est aussi un très bon duo amical. Mais dans le travail, ce qui est bien, je dirais, c'est que les tâches sont très bien réparties. Et du coup, le choix de la mise en scène, la scéno, le choix des textes, tout ça, c'est vraiment ton travail, Aude. Voilà. Après, bien sûr, comme tout comédien avec un metteur en scène, on discute, le comédien apporte au metteur en scène, le metteur en scène pose des questions, c'est un échange, tu vois. Mais c'est toi qui as eu cette idée-là, moi je ne l'ai pas eu.
Oui, et puis c'est toujours, lorsque le spectacle est en création, je suis très à l'écoute des inquiétudes d'Hervé, de ses questionnements. On essaye les choses, si ce que moi je propose, et puis... Parfois, souvent, voilà, à l'évidence où j'avais raison ou pas, il n'y a pas de compétition, d'emporter. On travaille vraiment dans un bon respect. Mais c'est vrai que ce sont en termes de mise en scène, c'est mon avis en général et ma sensibilité qui l'emporte. Forcément parce que je signe. Donc j'assume jusqu'au bout.
Oui, ouais, et puis parce que...
Puis parce qu'on est d'accord souvent.
Parce qu'on est d'accord, de toute façon, c'est pas en force, c'est-à-dire
oui,
que
c'est
si...
Oui, c'est jamais en force.
Ouais, non, si j'ai un doute, si j'ai un questionnement, tu l'entends. Et puis c'est qu'à un moment donné, il faut savoir aussi se faire confiance, quoi. Voilà.
Sur le premier spectacle, je me souviens une fois, il y a donc la scénographie se résume à une grande chaise. Et un jour, Hervé me dit, mais nous enquiquine cette chaise. Enfin, je ne sais plus comment ça s'était passé, on peut s'en passer. Et moi, je me suis dit, oula, tout était basé là-dessus. Mais on a quand même pris une demi-journée pour essayer le spectacle sans la chaise. Voilà, parce que c'était normal d'essayer sans la chaise.
Mais tu sais, on se connaît très bien avec Aude. On a fait, je ne sais pas, tu sais, nous, les comédiens, on parle en termes de dates. Mais on a fait, sans blague, au moins 600 dates ensemble. Depuis, quand je dis 600, c'est peut-être bien 700 maintenant. Quoi,
pas seulement sur nos deux spectacles, ouais, avec les précédents.
On a eu la chance de bosser avec un monsieur qui s'appelle Jean-Philippe Nas.
Bien sûr, évidemment.
La compagnie En Attendant, qui est une grosse compagnie. On a bossé aussi avec un monsieur qui s'appelle Christian Duchange. Tu vois, des gens qui voilà, des gens qui tournent bien, des gens qui font du bon boulot.
Et pour faire le lien, si je peux me permettre, Jean-Philippe a bossé justement... à la Fédération des œuvres laïques, à la FOL. Donc oui, ça a été aussi pour nous l'occasion, ça a été un de ses premiers boulots. Donc ça a été aussi pour nous l'occasion de travailler assez vite avec ces réseaux de décentralisation. Et moi, ça a été vraiment dans le sens de ma démarche et d'aller vers... et j'aime ce travail de terrain. C'est vrai que pour moi, la campagne... les petites classes, les petits villages, c'est chouette.
Évelyne Piété, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, moi je voulais rajouter que justement votre duo fonctionne aussi pendant la résidence, que c'est une grande chance pour, par exemple, hier à Coulon, la classe, voilà, ils avaient commencé à écrire un texte et puis dans ce que j'ai vu l'après-midi, ils avaient déjà vu Aude le matin, donc elle leur avait déjà apporté des idées de mise en scène sur le texte qui était écrit. Et l'après-midi, Hervé corrigeait, relisait à voix haute leur texte. Et donc, en même temps, ils le jouaient, en même temps, on revoyait ce que tu leur as dit, Hervé. C'est essayer de retirer. Il y avait les temps qui n'étaient pas toujours... passait du présent à l'imparfait, enfin voilà, tu leur reparlais des mots à construire comme avec des Legos, voilà, ouais. Comment les assembler, comment faire le chemin justement. un chemin fluide dans l'écriture.
Ben là, je dirais l'intérêt de la résidence. Et puis l'année dernière, on a fait aussi une très grosse résidence avec Aude à Lorient. On était pendant plus de 2 mois dans une école, dans une REP, c'est une région d'éducation prioritaire, etc. L'intérêt, c'est que tu vois, moi j'écris, je dessine, je joue. Et tout est lié en fait. Tu vois, c'est la même expression finalement. Enfin, c'est des expressions différentes, mais c'est la même chose, c'est la même envie, la même énergie. Et tu vois, l'intérêt, c'est quand on a commencé à réfléchir toi et moi, Evelyne, à la résidence, j'ai dit, ce serait bien que Aude soit là, parce que les enfants commencent à ils découvrent mes livres, je leur raconte comment j'écris. On le fait ensemble, en fait, on écrit ensemble, on attrape des mots, et puis un autre mot, et puis on y va, et puis l'histoire se construit, et puis c'est vraiment dans le plaisir, dans le jeu, dans la musique des mots. C'est exactement comme ça que je travaille. Et le dessin, c'est pareil, tu vois, il y a un petit trou dans le mur, je dis, ben ça, c'est pas un trou, qu'est-ce que c'est? Regardez bien. Ah, mais c'est l'oreille d'un monstre, ah, mais c'est une souris, ah, mais c'est une boîte secrète, c'est une planète. Et puis c'est parti. Et puis de là, en fait, tout naturellement, ça débouche sur le théâtre, et puis ça débouche sur plein de choses. Et du coup, les enfants écrivent leurs histoires, et moi, sur cette résidence, je m'occupe que de l'écriture, et directement de leurs histoires, eh bien, ils vont voir Aude, en fait, et directement, Aude les met en voix, les met en scène, tu fais un travail de théâtre avec eux sur leurs propres écrits.
Notre émission, malheureusement, touche à sa fin. Alors, pour les livres d'Hervé Houellebecq, ils sont parus à l'École des loisirs. Vous retrouvez la liste exhaustive sur notre site radiograndciel.fr. Je vous rappelle les deux spectacles qui sont ouverts au public, le 28 avril à 19h à la salle des fêtes de Coulon et le 10 juin à 18h à la bibliothèque de Nogent-le-Roi. Pour le premier, c'est La cheminée qui croyait au Père Noël, et le deuxième, L'histoire d'enfants à lire aux animaux, dont je vous conseille fortement la lecture. Merci à tous, et spécialement à Émilie qui a assuré la mise en onde de notre émission aujourd'hui, et à très bientôt sur Radio Grand Ciel.
Merci.
Merci. Au revoir.
Merci.
L'enfant Phasme. Il y avait dans ma classe un petit garçon, sec comme un bâton. Tout le monde le prenait toujours pour une branche. Le professeur de botanique l'utilisait régulièrement pour faire l'arbre sur l'estrade. À la récréation, les surveillants se servaient de lui pour frapper les élèves indisciplinés. Et quand le directeur passait dans les couloirs, il le confondait toujours avec sa canne et lui écrasait à chaque fois la tête avec la paume de sa main. Il n'était pas très heureux, et les autres enfants ne l'aimaient pas beaucoup. La plupart du temps, il restait seul dans un coin, occupé à chasser les pigeons qui prenaient ses épaules pour un perchoir. Un jour, alors que nous visitions le Muséum d'Histoire Naturelle, il découvrit un grand aquarium rempli de phasmes.
« Ce sont des petits insectes qui ne bougent presque pas et qui ressemblent à des brindilles. »
Le petit garçon crut d'abord apercevoir le reflet de son image dans la vitrine. Mais en regardant de plus près, il s'aperçut que les phasmes avaient exactement la même apparence que lui. À travers le lierre et les ronces, il semblait lui sourire et lui faire signe. Discrètement, il souleva le couvercle de l'aquarium, glissa un premier bras, puis un second, et enfin le corps entier. Dès qu'il fut avec les insectes, il se sentit tout à fait à son aise.
Waouh !
Il se cacha derrière une branche et attendit la fin de la visite. Quand la classe quitta le musée, personne ne remarqua qu'il manquait à l'appel. Par la vitre, il regarda les enfants retourner à l'école et décida de rester dans l'aquarium. Depuis ce jour, il vit avec les phasmes. Les surveillants sont bien obligés d'utiliser un autre bâton pour corriger les élèves. Et le professeur de botanique emmène désormais les enfants dans la forêt s'ils veulent voir des arbres.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.